entre les musulmans et aux chasseurs orientales. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi,
le micro qui dit au centre de parole aux auditeurs de ce mercredi. Pendant 1h15, nous allons échanger, discuter, débattre des contours et de l'impact de ces prix. L'activité de microcrédit consiste généralement en l'attribution des prêts de faible montant à des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Le microcrédit se développe surtout dans les pays en développement. De plus en plus, ces structures de microcrédit ouvrent leurs portes en RDC, que ce soit du type formel comme le banque commerciale, les coopératives d'épargne, de crédit international congolaise, soit du type non formel comme les coutines. Ces prêts bancaires sont perçus par certains comme une bouée de sauvetage, là où d'autres parlent d'exploitation suite au taux d'intérêt souvent très élevé. Quel est l'impact de ces prêts dans votre vécu quotidien? Voilà la question qui lance notre émission. Nous avons invité pour vous M. Lens Samoania, il est analyste économique. Pierre Lamegi, Titine Poutou et Nicole Gaska sont à la réalisation de cette émission. Mimi Pindou est à la mise en onde et Marie-Chantal Mba à la présentation.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Encore une fois, bonjour, en attendant que nous puissions avoir notre invité, M. Lens Samoania, qui sera au téléphone, il est analyste politique et économique. Nous allons prendre Géry de Bandundu, Séraphin Douvira et tant d'autres qui ont composé le 081-890-6315 qui vont s'exprimer au cours de cette émission sur les microcrédits. Bonjour Géry. Géry ? On a des problèmes avec la ligne de Géry, mais on va revenir à lui parce que c'est lui qui était notre premier auditeur. Malheureusement, on va revenir à Géry de Bandundu puisqu'après de prendre, on prend le temps de prendre d'abord Séraphin Douvira. Bonjour. Nous avons perdu aussi Séraphin. Aujourd'hui, mercredi, Parole aux auditeurs consacre son émission au microcrédit parce que nous avons constaté qu'en RDC, à travers tout le territoire national, de plus en plus des structures de microfinance ouvrent leurs portes, que ce soit du type formel, comme des banques commerciales, des coopératives d'épargne, des crédits, que ce soit des structures internationales congolaises, et aussi, comme il y a toujours depuis des années, cela existe au coin de vos rues, dans vos quartiers, les tultines, là où les mamans ont l'habitude de pouvoir se rendre pour essayer d'épargner leur argent et aussi recevoir du crédit. Mais aussi, il faudrait dire que les microcrédits, souvent, quand les gens reçoivent ces crédits, pour les uns, ils pensent que c'est un coup de pouce pour leur permettre de pouvoir se relancer dans des activités économiques. Mais pour d'autres, ils pensent qu'au regard surtout du taux de remboursement, c'est une exploitation même des personnes qui sont venues demander un peu d'aide. Et souvent, les microcrédits sont... Excusez-moi. Souvent, les microcrédits sont souvent octroyés à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et même à l'origine du microcrédit, c'était dans des pays pauvres. C'est même le professeur en économie Mohamed Younous qui a vraiment développé cela. C'était dans un pays de l'Asie. Nous aurons plus de précisions au cours de cette émission. Mais nous prenons d'abord Géry, le Bandundu qu'on a pu recontacter. Bonjour Géry. Encore une fois, nous avons perdu Géry de Bandundu-Ville. Là, vraiment, désolé, nous ne pourrons pas recontacter Géry de Bandundu. Là, on a vraiment des problèmes de liaison. Comme j'étais en train de vous dire que le professeur en économie Mohamed Younous, qui a développé vraiment les microcrédits. Et en fait, l'initiative, c'était d'aider les pauvres qui ne pouvaient pas accéder à des crédits dans les structures financières comme des grandes banques. C'était pas facile pour ces personnes parce que d'abord, ces personnes demandaient des crédits qui sont très faibles, mais aussi ces personnes n'avaient pas assez de garanties pour montrer à ces structures qui sont assez fortes de pouvoir rembourser les taux, de pouvoir rembourser l'argent qu'ils allaient recevoir. Alors, au regard de toutes ces difficultés, c'est ainsi que Mohamed Younous a tenté l'expérience en venant en aide aux femmes artisanes, et il avait donné à chacune d'elles $27. Vous voyez que c'était assez pas insignifiant, parce que avoir $27 comme crédit dans une grande banque, c'est pas possible. Et c'est ainsi qu'il avait pensé pouvoir aider les femmes. Et au cours des années, ce système s'est développé. Et aujourd'hui, nous parlons de microcrédit. Nous avons déjà notre invité en ligne. Bonjour, Monsieur Lenk Samoyan. On a vraiment des problèmes de liaison. Le temps que la réalisation puisse vraiment arranger toutes ces difficultés avec Mimi Kindou et Titine Poutou, sans oublier Pierre et la Magique, sont en train de se battre pour pouvoir vous aider, à pouvoir vous exprimer à propos des microcrédits, parce que nous aimons vos témoignages. Cela permet de comprendre comment vous vivez chez vous et comment ça se passe dans votre milieu. Donc n'oubliez pas, c'est le 081 890 6315.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi est aussi avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parlez, nous transmettons. Proposez, nous discutons. Parole aux auditeurs. Le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h. On est Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Et ces paroles aux auditeurs, aujourd'hui l'émission est consacrée au microcrédit. Notre invité est au bout du fil, il s'agit de M. Lems Kamoya. Bonjour M. Kamoya.
Bonjour.
Et là on avait eu des problèmes de liaison, mais j'espère que cette fois-là ça se passe mieux. Actuellement, est-ce que vous connaissez bien ce milieu de microcrédit? Est-ce que vous pensez qu'actuellement il est plus facile qu'une personne puisse bénéficier d'un microcrédit ici en RDC?
En tout cas, je vous entends difficilement.
Juste, on est en train de discuter, on va échanger sur le microcrédit. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne vous entend pas très bien. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Est-ce que c'est possible vraiment de pouvoir vous déplacer ou être en endroit un peu plus calme? Comme ça nous permettra de mieux échanger, parce que nous-mêmes, nous vous suivons avec beaucoup de difficultés. Donc, on a l'impression vraiment qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous. Le temps que vous puissiez peut-être vous déplacer un tout petit peu, nous allons revenir à vous, Monsieur Lems Kamoya, parce que là, vraiment, il y a trop de bruit autour de vous. Je ne sais pas si c'est la liaison, il y a un problème de communication. Le temps que Titine Poutou et Mimi Kindou puisse essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer d'améliorer la qualité de son, nous allons revenir à vous, Monsieur Lems Kamoya. Et je rappelle aux auditeurs que nous parlons aujourd'hui du microcrédit. S'ils veulent participer à cette émission, ils connaissent les deux possibilités. Ils peuvent nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou carrément nous appeler au 081 890 6315. Entre-temps, nous prenons d'abord Irène de Mbujimayi. Bonjour Irène. Irène? On dit que c'est plutôt Irénée. Bonjour Irénée. Là, vraiment, ce sera difficile aujourd'hui parce que sans téléphone, ce sera difficile pour nous de pouvoir joindre nos auditeurs et réaliser cette émission, parce que cette émission est vraiment réalisée pour vous, a été mise au point pour vous, pour que vous puissiez vous exprimer, donner vos avis sur les antennes de Radio Capi, sur des sujets qui vous intéressent. Nous allons essayer de pouvoir contacter Jean-Marc de Gemena. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Radio Capi.
Enfin, nous avons moins quelqu'un où ça passe mieux. Jean-Marc, dites-nous un peu Est-ce que vous pouvez nous témoigner et surtout nous dire quel est l'impact des microcrédits dans votre milieu?
Ah bon, là je regrette. Je ne sais pas si on peut parler des impacts de ces microcrédits dans ce qui est précisément pour notre musée ici à Guéména. Parce que je vais apporter un petit témoignage. Tout au long de l'année 2009, je crois, je ne me souviens pas très bien si j'étais en premier semestre ou deuxième semestre. Il y a une maison ici qui s'appelle Fébol. Il y a un certain matin où les clients se sont réveillés le matin, tout va à la maison, complètement fermé, tous les numéros de staff ne répondaient plus, et c'est jusqu'aujourd'hui que cette maison ne fonctionne pas. Donc, les malheureux qui avaient choisi de déposer leur argent là-bas pour avoir quelque chose, bon, aujourd'hui se retrouvent comme j'étais auparavant. Donc, je ne sais pas si ces gens-là peuvent témoigner qu'il y a des impacts de ces microcrédits dans des milliers, précisément italiens.
Donc, c'était la seule structure qui offrait des microcrédits et qui acceptait de pouvoir épargner l'argent de certaines personnes.
Oui. Ici, mais il y a une tentative, il y a une autre maison qui est en train de d'essayer si ça peut marcher, mais compte tenu de la première expérience, les gens ont des réserves.
Montant de réserve. Et vous pensez, à votre avis, s'il arrivait qu'on puisse créer, par exemple, à Guéména, une structure qui puisse octroyer des microcrédits, est-ce que vous pensez une structure crédible? Est-ce que vous pensez que cela aura de l'impact dans le vécu quotidien des populations?
Bon, ces gens-là auront beaucoup à faire pour effacer un peu la mauvaise expérience du passé. Parce que ce n'est pas une décision. D'ailleurs, au moment où cette histoire passait à Guéména, à l'est du pays, dans une ville là où je vis le nom, les gens aussi faisaient des bruits à cause d'une histoire qui s'est passée aussi là-bas. Les gens ont pu avec leur argent. Donc, pour être très clair, quelqu'un comme moi, je n'ai plus confiance à ces maisons-là.
Donc, vous préférez, parce qu'il existe à l'époque, il existait des toutines qui existent même jusqu'à présent au niveau du marché. Il y a des femmes qui ont l'habitude de se cotiser chaque fin de journée pour remettre l'argent à une autre qui fait partie du groupe. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de pouvoir essayer d'épargner et donner un microcrédit au lieu de passer par des structures formelles?
Bon, au commencement, ça se passe toujours bien, mais ça se termine toujours mal. Ce qu'on peut faire, c'est seulement multiplier les banques où les gens faisaient quand même des comptes courants et tout. Mais c'est ça, là, les microcrédits, souvent ça n'apporte rien.
Donc,
et surtout, même si à l'époque on fait avec l'argent, les gens ne se retrouvent plus. Parce qu'il y a des fois où les grands noms sont cités parmi les actionnaires de ces maisons et ils se sentent intouchables.
Donc, un manque de confiance client. Ces banques, surtout en ces structures de microcrédit. Il faudrait souligner que c'est assez difficile d'octroyer des petits crédits aux artisans par ces grandes banques. C'est assez compliqué. C'est pourquoi même il y a eu l'évolution, le développement même des microcrédits. Merci beaucoup pour votre intervention à partir de Guéména. Nous allons essayer de pouvoir recontacter l'invité parce que là, si on n'arrive pas à pouvoir avoir des personnes en ligne, avoir des auditeurs, nous serons obligés de pouvoir arrêter cette émission, mais nous essayons quand même de pouvoir faire un effort pour que cette émission puisse se dérouler dans des bonnes conditions. Donc aujourd'hui nous parlons des microcrédits et nous allons faire un effort de pouvoir vous contacter pour que vous puissiez vous exprimer.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-67-800 par internet pa@radiookapi.net.
Et nous poursuivons Parole aux auditeurs avec beaucoup de difficultés. C'est assez pénible aujourd'hui. Vraiment, les dieux de la technique ne sont pas avec nous. On n'arrive pas à vous contacter, on n'arrive pas à avoir nos auditeurs en ligne. Mais nous essayons de faire un effort. Nous espérons que cette fois-là, notre invité est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Lemka Moigna.
Bonjour.
On espère que cette fois-là, la qualité est meilleure. Aujourd'hui, nous parlons microcrédit. Vous connaissez bien ce milieu. Qu'est-ce que vous pensez que actuellement, au regard de la période, de la situation qu'a traversé la RDC, surtout dans le domaine économique et dans le système bancaire, est-ce que vous pensez qu'actuellement il est plus facile aux Congolais d'accéder à un microcrédit qu'il y a cela 5 ans et 10 ans?
Oui, bon, je ne
Je dirais oui ou non, oui et non à la fois, parce que oui, parce qu'actuellement on constate qu'il y a quand même quelques institutions de microcrédit qui commencent à s'installer. Et ensuite on voit certaines banques qui commencent à développer une filière spécifique liée au microcrédit. Ça c'est déjà quelque chose qui permet à ceux-là qui le désirent de pouvoir accéder, accéder facilement à ces microcrédits, chose qui n'existait pas effectivement il y a 5 ans, où les banques, la plupart commerciales, c'est réservé de traiter seulement avec des clients qui ont une certaine dimension et n'offrent pas ces possibilités de microcrédit à ceux-là qui veulent entreprendre à une petite échelle. Actuellement, c'est quand même acquis. Mais cet acquis doit être relativisé si on regarde le nombre d'abord d'institutions de microcrédit qu'il y a et ensuite si on regarde eu égard aux besoins de personnes qui cherchent à accéder à ce microcrédit. Je crois que l'offre de ce microcrédit reste largement insuffisante par rapport à la grande demande, parce qu'au Congo, c'est presque tout le monde qui est entrepreneur et c'est des gens qui évoluent dans les petites sphères d'activité qui sont les plus nombreux et qui ont besoin d'un coup de pouce face à un nombre assez limité, très limité des institutions qui peuvent répondre à leurs besoins.
Nous avons eu un témoignage de Jean-Marc, c'était le premier auditeur que nous avons pu avoir au bout du fil. Il nous appelait de Guémena. Pour lui, il a fait un témoignage, il dit qu'actuellement c'est vraiment difficile que les populations puissent avoir confiance aux banques, surtout à ce structure de microcrédit. Il a même fait un témoignage assez poignant, il y avait une structure à Guémena, les personnes ont déposé, ont épargné leur argent dans cette structure de microcrédit. Certains avaient reçu des microcrédits, mais le lendemain, ils se lèvent un bon matin et la structure a fermé ses portes, les numéros de téléphone sont éteints, on ne sait plus contacter les responsables de cette structure. Il a soulevé ce manque criant de confiance des populations en ces banques. Est-ce que cela peut permettre aux structures de microcrédit de bien s'installer en RDC?
Oui, ça c'est un défi réel qu'il faudra vraiment relever, parce que vous savez, les relations qui lient toute entreprise financière ou bancaire à l'instar de son microcrédit avec le reste de la population ou des personnes qui vont acheter le commercial, ça repose sur la confiance, une confiance qui doit être mutuelle. Parce que ces structures, elles peuvent collecter de l'épargne auprès de ceux qui ont une capacité financière excédentaire et accorder des petits crédits à ceux qui sont dans les besoins, espérant que ceux qui prennent les crédits vont rembourser et elles vont être en mesure de rémunérer ceux qui les ont confiés sur cette épargne supplémentaire sous forme de placement. Bon, dans ces pays, effectivement, les gens ont de mauvais souvenirs de banques ou des structures qui ont fermé leurs guichets, sans pour autant que ces personnes soient indemnisées. Donc là, il y a un véritable problème de savoir les versions de microcrédit, où est-ce qu'elles peuvent collecter leur épargne et comment elles peuvent maintenant accorder des prêts à ceux qui les désirent. À ce moment-là, la première solution que moi j'envisage, c'est avoir des structures qui fonctionnent d'abord avec leurs fonds propres. C'est-à-dire vous commencez par accorder des prêts crédits, comme on en voit d'autres, avant de demander à des personnes de vous déposer l'argent et utiliser cet argent comme un fonds de roulement pour accorder les crédits aux autres. L'État est en train de rétablir cette confiance qui a été longtemps embrigée. Ça, c'est un défi important qui devra être effectivement relevé.
Alors là, il faudrait demander aux personnes qui voudraient reconnaître une structure fiable de celle qui ne l'est pas, à pouvoir avoir plus d'informations sur cette structure, savoir d'abord quels sont les fonds, les capitaux qui sont
de combien dans la structure de micro et crédit, quel est le degré de confiance qu'il y a, parce que si on regarde un peu toutes ces quelques mutualités, les coopératives financières qui naissent à gauche et à droite, c'est des structures pour lesquelles peut-être les promoteurs ou ceux qui le mettent en place n'ont pas un fonds important sur l'argent que certains déposants peuvent leur amener et accorder le crédit. Et à ce moment-là, si il y a ce manque de confiance et si on sent que les propriétaires, les promoteurs n'ont pas une surface financière assez élevée, ça peut créer des suspicions et éviter que les gens aient confiance en des telles structures.
Nous avons aussi un auditeur qui pense, il estime que ces microcrédits, ce sont plus des structures d'exploitation et cela au regard du taux d'intérêt est souvent très élevé. Que pensez-vous de cet avis?
Ça, c'est aussi un autre aspect très important parce que, vous savez, quand vous mettez en place une structure de microcrédit, vous devez traiter avec ceux-là qui font les petits commerces, toutes les activités commerciales à une échelle qui est assez réduite, modeste. Donc ces gens-là, si par exemple vous lui donnez 500 dollars, 1000 dollars ou 300 dollars, il doit être en mesure de faire son activité
de gagner les bénéfices pour qu'il se d'abord lui-même et qu'il soit en mesure de rembourser les montants que vous lui avez prêtés, moyennant un certain intérêt. Mais si vous mettez un taux d'intérêt assez élevé, à ce moment-là, ça pose des problèmes. Là, vous commencez à exploiter et vous n'aurez pas à atteindre votre objectif en tant que structure qui est là pour promouvoir les petites activités.
Mmh.
Et ça, c'est un problème très important. Le taux d'intérêt doit être faible et les montants à rembourser doivent être échelonnés sur de longues périodes pour permettre aux petites structures, aux petites activités ou aux personnes qui y recourent de pouvoir respirer aussi et de pouvoir avancer un peu dans le bon sens. Ça, c'est très important.
Donc, il faudrait peut-être revoir hein, le taux de remboursement.
Il faut que le taux soit en principe inférieur à 5%.
Oui, et à votre avis,
on gagne plus sur le nombre de ceux-là qui peuvent recourir à ce crédit que sur le taux d'intérêt. Il doit être relativement bas pour couvrir un nombre assez élevé de petits emprunteurs.
Oui, et à votre avis, vous pensez que l'État peut avoir un rôle à jouer, par exemple, proposer au niveau du Parlement ou voter une loi au niveau du Parlement qui pourrait recadrer un peu ces microcrédits, surtout concernant les taux de remboursement, donner, si c'est possible, une moyenne?
Oui, peut-être l'État a un rôle à jouer à travers la Banque centrale qui supervise l'ensemble du système financier, parce que nous devons avoir une loi, une législation qui régit les règles de fonctionnement des institutions de microcrédit pour éviter la barre qui se passe aussi parfois au sein de la population. Mais en ce qui concerne le taux d'intérêt, il ne peut pas être réglementé par les pouvoirs publics parce que plus que nous avons des institutions de microcrédit, plus elles vont se faire concurrence et la concurrence se fait en termes de conditions d'octroi de ces prêts, les taux d'intérêt et tout ça. Ça, c'est les données qui font en fait la concurrence qui doit exister entre les institutions de microcrédit. Ça ne peut pas être réglementé que par l'État. Mais l'État doit plutôt mettre en place une réglementation qui encourage les institutions à s'installer, qui les sécurise autant que cette situation sécurise aussi la population qui y recourt, et on laisse maintenant les lois du marché fonctionner entre les différentes institutions de microcrédit.
Merci beaucoup, M. Lems Kamanya. Nous vous gardons en ligne. Nous allons essayer de poursuivre cette émission qui est consacrée au microcrédit, surtout l'impact de ces microcrédits dans votre vécu quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons vraiment des problèmes pour pouvoir contacter nos auditeurs, les rappeler, pour qu'ils puissent donner leur avis, qu'ils puissent nous faire leur témoignage, ou qu'on puisse débattre des contours et de l'impact de ces prêts dans leur vie. Mais nous essayons, nous allons poursuivre, pouvoir essayer de les contacter pour qu'ils puissent nous en parler. Et nous allons continuer à voir dans quelle mesure cette émission pourra se dérouler. Et n'oubliez pas que c'est le 081-890-6315, le 081-890-6315. Ou carrément, vous pouvez nous écrire à l'adresse pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiocapi.net.
Et nous poursuivons cette émission. Nous avons pu joindre Médard. Il est à Kinshasa. Bonjour Médard.
Bonjour madame, comment vous allez?
Nous portons bien Médard. Dites-nous à votre avis, quel est l'impact des prêts, de ces microcrédits dans votre vécu quotidien?
Bon, à mon avis, madame, je me dis que d'abord je me demande toutes ces banques qui viennent nous donner des crédits ici, est-ce que ce n'est pas du blanchiment d'argent? Ça se fait avec tellement de facilité hein, qu'on se demande d'où vient cet argent. Il y a des banques qui offrent des crédits de 3 ans, de 2 ans. Puis j'aimerais demander aussi à M. Kamoigne, à votre expert, si nous entendons qu'en Europe, les gens ne visent que des crédits, est-ce que cette politique-là serait applicable ici, chez nous au Congo?
Et quelles sont vos craintes lorsque vous dites que cette politique peut être applicable au Congo? Et cela vous fait allusion à quels paramètres qu'on peut constater ici en RDC, mais qui n'existent pas peut-être dans les autres pays où ils vivent à partir du crédit?
Ah, mais madame, ici, chez nous, vous donnez un crédit à quelqu'un et le lendemain, quand il est dans son royaume natal, vous le retrouvez comment? C'est ça le problème, il disparaît avec l'argent et on ne sait plus à quoi s'en tenir, hein. Mais en Europe, au moins, je pense que la traçabilité est un peu plus facile. Que M. Kamoigne peut nous éclairer à ce sujet.
Merci beaucoup, Médard de Kinshasa. Des craintes que vous avez soulevées, vous pensez que le fait qu'on puisse octroyer facilement de crédit, vous estimez que peut-être que ce serait un blanchiment d'argent, mais aussi vous estimez que c'est difficile d'octroyer des crédits ici en RDC au regard de la situation actuelle, difficilement, ce serait difficile de pouvoir tracer ou bien de pouvoir suivre la personne qui a contracté ce crédit. Merci encore une fois, Médard de Kinshasa. Nous allons prendre Salomon. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous aussi, vous êtes à Kinshasa. Dites-nous, que pensez-vous de l'impact de ces prêts dans le vécu quotidien?
Bon, il est difficile, madame, de dire cela. Bon, madame, monsieur Lienz, comme moi, je ne sais pas si vous êtes quand même parvenu à nous dire, parce que vous croyez les micro-crédits aux femmes, je ne sais pas comment ils font cette sélection-là. Parce que depuis des temps, de longues années, on trouve qu'il n'y a absolument rien qui avance. J'ai vu une femme qui intervenait il n'y a pas une semaine sur une seule des télés, une telle chose, qui disait que depuis lors là, on donne des micro-crédits aux gens, mais ils font absolument rien, soit c'est du commerce, quelqu'un peut prendre comme l'intervenant de tout à l'heure, venait de dire là, quelqu'un prend de l'argent et il va se relativiser. Je voudrais savoir comment on parvient à sélectionner et quels sont les critères qu'on met pour qu'on donne des micro-crédits.
Donc ce sont les conditions d'octroi, vous voulez avoir des précisions,
oui.
Mais néanmoins il faudrait savoir que ça dépend d'une banque à une autre. Mais dites-nous un peu, Médard, plutôt Salomon, est-ce que vous pensez que s'il arrivait qu'on puisse octroyer le plus de micro-crédits aux personnes, cela pourrait aider à pouvoir réduire la faim ou la pauvreté?
Oui, ça dépend aussi d'un milieu à un autre. Moi, je voudrais qu'on puisse donner ces crédits-là, surtout aux zones périphériques, donc dans des milieux ruraux, par exemple, parce que c'est là que ça pose problème pour l'assainissement du milieu. Il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Car ici, de toute façon, on parle qu'il y a des laissages, mais dans des villages, il n'y a même pas d'électricité. Les enfants, ils se grandissent, ils ne connaissent pas du courant. Les problèmes d'eau potable, il y a trop de maladies qui se vivent dans nos villages.
Donc, effectivement, vous avez raison, parce que selon des chiffres, cela démontre qu'il y a plus de structures de microcrédit dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Merci beaucoup, Salomon de Kinshasa, pour votre intervention. Tout de suite, l'invité pourra répondre à vos préoccupations, mais il est temps de prendre d'abord Franck d'Autriche. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal, et bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour, nous l'avons appris, souvent dans les pays dits développés, les gens vivent par le crédit. Dites-nous un peu comment ça se passe.
Oui, c'est vrai. Ici, les gens vivent par et à travers le crédit. Ça signifie qu'il y a des structures qui permettent aux gens d'avoir d'abord accès à la formation, à la scolarité. Après la formation et la scolarité, ils ont parfois accès facile au travail. Et dès qu'ils commencent le travail, ils ont droit à leur salaire. Donc, quand le salaire est versé régulièrement, mensuellement, à la fin du mois, les messieurs qui travaillent peuvent se permettre d'aller se présenter dans un guichet de banque pour demander un crédit.
Mm-hmm.
Et avant qu'on lui octroie ce crédit-là, on doit d'abord vérifier sur ses fiches de paye si le montant dont il a besoin serait possible de lui accorder et il serait à mesure de les rembourser. Alors, ça signifie quoi? Que avant qu'on t'alloue, qu'on t'octroie un petit crédit, on doit d'abord se rassurer que tu travailles et tu as un salaire et tu seras à mesure de rembourser les prêts qu'on va prendre à la banque. Mais seulement le problème qui se pose chez nous, il y a quelques écueils. Le système bancaire en soi n'est pas encore bien expliqué et enseigné aux citoyens. Donc, peut-être que je serai extrémiste, mais je peux dire que chez nous, en République démocratique du Congo, les systèmes bancaires ou les quelques banques que nous avons se trouvent seulement dans des grands centres, dans des centres urbains, comme Kinshasa ou dans des chefs-lieux de province ou les chefs-lieux de certains territoires. Mais dans des villages ou des secteurs, c'est d'abord difficile d'avoir une banque.
Et pourtant, c'est eux qui ont besoin de microcrédits.
Justement. Mmh. Et aussi, la mauvaise politique salariale. Pour les citoyens qui travaillent dans une ville comme Kinshasa ou bien dans certaines villes des chefs-lieux de province, avec ce qu'on leur donne comme salaire, ils ne peuvent pas se permettre d'aller prendre un crédit. Parce que avant d'abord de prendre un crédit, on doit se rassurer que les salaires que vous recevez à la fin du chaque mois vous permettraient de les rembourser. Et ce salaire doit être payé mensuellement. Avec le système de retard des salaires, avec une mauvaise politique salariale, c'est difficile de parler de ce genre d'activité de microcrédit. Et la troisième difficulté que je dégage là, c'est au niveau de l'écart qui existe entre l'intérêt, le taux d'intérêt et le montant reçu. Pour quelqu'un qui travaille, qui gagne par exemple 20 dollars, si on doit lui donner un crédit de 1000 dollars et qu'il doit rembourser en une année ou bien deux ans, madame Marie Chantal, c'est pas quand même facile.
Mm-hmm.
Je crois que il y a aussi une obligation politique. C'est pas aux citoyens, c'est pas aux individus de l'organiser. Ça, c'est un problème d'État. C'est l'État qui doit d'abord planifier tout ça. C'est l'État qui doit encore remettre en place un système bancaire fiable afin que les citoyens puissent aussi faire confiance à leur banque.
Oui, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait un impact dans le vécu quotidien des Congolais s'ils arrivaient tous à pouvoir recevoir, par exemple, un microcrédit?
Bon, je dirais oui ou non, ça dépendrait de la manière de gérer ce microcrédit. Mais là aussi, il y a des effets qu'on peut encore relever. Il faut aussi qu'il y ait d'abord un pouvoir d'achat de haut niveau. Parce que si on alloue un crédit à quelqu'un, le crédit est octroyé, ce crédit-là doit être certifié. Mais maintenant, l'intérêt ne peut venir que si quelqu'un qui va, par exemple, à une clientèle, les gens viennent s'acheter et il a un peu d'argent pour aller rembourser à la banque. Mais du moment où vous donnez 500 dollars à quelqu'un qui s'achète des cartes d'un crédit pour aller vendre, vous placez, il habite dans un environnement où les gens ne sont pas en mesure de s'acheter ce crédit tous les jours. Ils viennent prendre des dettes ou des crédits encore, ça ne lui permet pas d'évoluer. Du coup, il y a une double difficulté d'abord entre les messieurs qui ont bénéficié du crédit de la banque pour aller les rembourser à la banque, et aussi des clients qui doivent venir s'acheter qui n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Alors moi, je crois qu'il y a d'abord des problèmes de fond du point de l'organisation de l'État. Il faut repenser la politique salariale. Il faut encore recréer un cadre de confiance avec le système bancaire. Comme ça, quand les gens ont accès à ces deux privilèges-là, ça peut facilement fonctionner. Mais tant que ces paramètres-là ne sont pas encore repensés, je ne vois pas quel serait vraiment cet impact dont on parlait au niveau du petit quotidien de la population.
Merci beaucoup, Franck, pour votre intervention à partir d'Autriche. Et nous poursuivons cette émission. N'oubliez pas, notre numéro, c'est le 081-890-6315. Et vous pourrez intervenir au cours de cette émission qui est consacrée au microcrédit.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à notre invité, Monsieur Lems Tamoigna. Vous avez suivi nos auditeurs autant de préoccupations, aussi des inquiétudes. Est-ce que vous pouvez répondre, par exemple, à Médard, qui pense qu'au regard de ces banques qui viennent de s'installer, il craint qu'il puisse y avoir un blanchiment d'argent?
Oui, ça, c'est une préoccupation qui est réelle. Et je crois qu'actuellement, dans notre pays, il y a une loi contre le blanchiment d'argent qui existe, comme aussi dans la plupart des pays étrangers, cette loi existe. Bon, ensuite, il y a toute une réglementation à suivre pour arriver à ouvrir soit une banque ou une institution de microcrédit. Et la banque centrale, qui joue le rôle du conseil système financier, doit s'assurer que les personnes qui veulent ouvrir une banque ou les sociétés qui veulent ouvrir une institution financière telle qu'une banque ou une institution de microcrédit réunissent toutes les conditions et que l'argent qui est amené, ce n'est pas l'argent qui vient ici pour être blanchi. Et même dans les opérations, il y a toujours les contrôles, il y a toujours des missions de supervision de la Banque centrale qui arrivent à s'assurer que les opérations qui sont faites par cette institution nouvellement créée ou anciennement existante, ces opérations-là sont transparentes et qu'il n'y a pas quelque part du blanchiment d'argent. Donc ça, c'est une préoccupation majeure qui invite au fait que la Banque centrale à prendre ses responsabilités en tant que institution qui doit superviser l'ensemble du système financier national. Sinon, nous risquons d'être inondés par des banques qu'on ne connaît pas, qui sont des chefs propriétaires, on ne sait pas d'où vient l'argent, on ne connaît pas la nature des opérations qui se font. qui peuvent d'un jour à un autre fermer les portes et partir et causer beaucoup de dégâts au niveau de l'économie. Ça, c'est une préoccupation qui est fondamentale et qui appelle la Banque centrale à jouer son rôle de supervision et de contrôle du système financier national.
Nous savons combien qu'en RDC, c'est assez difficile de pouvoir localiser toutes les personnes qui peuvent prendre un crédit, savoir quels sont leurs mouvements. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est en défaveur en fait des banques qui octroient leur crédit à certaines personnes?
Oui, ça c'est le risque. Généralement, les banques font ce qu'on appelle le commerce de l'argent. Donc, ils vous donnent l'argent que vous devez rembourser avec un supplément, un supplément qui est rémunéré en fonction du taux d'intérêt. Alors, là où il faut minimiser ces risques-là, les banques ne peuvent pas accorder à quelqu'un qui n'a pas la capacité de rembourser. Parce que si on vous prête 100, vous pouvez rembourser 110 ou 115. La banque doit se rassurer au départ que cette personne a une capacité, lorsqu'elle lui donne 100, de rembourser ce montant avec un excédent pour que moi je puisse rémunérer le prêt que je lui ai accordé. Et ça, ça fait partie des analyses faites par les banques. Et quand vous demandez un crédit, on va voir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous êtes un opérateur économique ou pas? Est-ce que vous êtes un salarié? Est-ce que vous avez un salaire qui vous permet de le faire? Ce sont autant de conditions qui doivent être évaluées par la banque avant de décider de l'octroi du crédit. Mmh. Et ça, c'est le côté qui est le risque même qui rémunère les banques. Parce que si la banque ne prend pas ses risques, à ce moment-là, elle peut se retrouver avec beaucoup d'encaisses oisives qui ne servent à rien et l'argent, une fois que ça a été créé par la Banque centrale, vous mettez ça dans les trésors d'une banque, l'argent ne peut pas se multiplier. L'unique façon de le multiplier et de rentabiliser la banque, c'est accorder le crédit à ceux-là qui peuvent rembourser plus que ce qu'on les a accordé.
À ce moment-là, on risque d'aider les riches et non les pauvres, ce qui est l'optique.
Non, maintenant, c'est pourquoi, au fait, il y a des banques qui ont plusieurs segments, tout comme il y a aussi des institutions de microcrédit qui ne voient que ceux qui sont dans les petites sphères d'activité. Par exemple, moi je trouve ici, parce que je n'aime pas les nommer, cette institution de microcrédit qui accorde des petits crédits 100, 200, 300 dollars au moment maraîchère, au moment qu'ils vendent, je ne sais pas, les cacahuètes, mais qui sont localisables. C'est-à-dire, on veut les aider à développer leur sphère d'activité. À ce moment-là, il ne faudrait pas que les banques soient vraiment exclusives. Alors, si vous n'avez pas un certain nombre d'institutions de microcrédit qui regardent cette catégorie de ceux qu'on considère comme pauvres, pas pauvres, donc les gens qui évoluent à une sphère d'activité qui leur permet de générer quelque chose. Parce que si vous n'avez pas la capacité de rembourser, on ne peut pas vous accorder les crédits. Parce que les institutions de microcrédit, elles font les commerces, elles doivent aussi rentabiliser ce qu'elles donnent. Ce ne sont pas des institutions caritatives qui sont là pour accorder de l'argent sans contrepartie. Il y a une contrepartie. Si vous demandez l'argent pour acheter un terrain, le terrain ne peut pas rapporter. On ne peut pas vous accorder ces prêts si vous ne démontrez pas que, en dehors de ça, soit vous avez un salaire qui vous permet de rembourser. Mm-hmm. Donc, si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas besoin de rembourser, vous ne pouvez pas accéder à un crédit auprès d'une institution de microcrédit. Ce ne sont pas des institutions caritatives. Elles font le commerce de l'argent et elles doivent aussi vivre de ce qu'elles font comme travail.
Mm-hmm. Alors, cela aussi appelle les notions de gestion et puis de créativité à ce moment-là. C'est-à-dire même Franck.
Exactement. Il y a certains institutions de microcrédit qui accompagnent en fait ceux-là qui demandent le crédit par des conseils en gestion, comment épargner, comment ne pas tout gaspiller. Parce que vous savez, dans nos pays ici, les gens ont la culture de consommation. Dès qu'il a un peu d'argent, il se dit qu'il peut acheter ceci, des objets de luxe, des choses qui ne sont pas peut-être rentables. Alors il faut qu'on assiste la personne avec des conseils en gestion, qu'on puisse lui dire, l'argent que vous prenez, vous devez le rembourser, si vous gagnez plus, mettez un peu de côté, consommez ça. À ce moment-là, la personne sait que j'ai une obligation, non seulement de rembourser la banque, mais moi-même aussi de développer mon activité, de faire qu'il puisse connaître une certaine expansion. Et ça, ça manque. On voit les gens, les mamans, les personnes qui ne travaillent pas, plein de courage pour ces activités commerciales, mais ils n'ont pas de notion de gestion. Il faudrait qu'on les accompagne. Si papa se structure, il faudrait que l'État, d'une manière ou d'une autre, nos collectivités songent comment dispenser à ces gens qui font ces commerces-là quelques notions sur la gestion.
Oui, c'est très important. Et avant qu'on puisse écouter Séraphin de Kisangani, André Koussou de Kinshasa, lui, il est du secteur même des microcrédits et il fait partie du regroupement du système des financements décentralisés au Congo en sigle RIFIDEC. Une dernière question avant d'écouter nos auditeurs, c'est la question même de Salomon. Il a trouvé vraiment que, au regard de la cartographie, il y a plus de structures au niveau des centres urbains et pourtant c'est dans les milieux ruraux où vraiment il y a des personnes qui ont besoin de ces microcrédits. À votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour établir un peu un équilibre concernant l'établissement de ces structures?
Ça, c'est un problème réel. C'est pourquoi, là où il n'y a pas les privés, généralement, on demande à l'État de jouer d'abord le premier rôle de relais. C'est-à-dire, l'État peut s'installer. On avait vu en son temps, on avait la caisse d'épargne du Congo.
La
CADECO, qui était implantée presque dans la plupart de nos milieux, non seulement urbains, même dans certains milieux ruraux aussi. Et on a vu en place la poussée des coopératives. Mais ce qu'il faut comprendre, si c'est des privés qui mettent en place cette initiative, ils ne viennent pas pour régler un problème social. Les privés viennent pour faire des affaires. Alors ils se disent où est-ce qu'ils peuvent s'installer, où ils peuvent faire des affaires et y gagner. Alors si on se rend compte que les privés se cantonnent plus dans les centres urbains, l'État devrait prendre aussi les relais pour voir dans quelle mesure soit promouvoir que ces activités soient aussi étendues jusque dans les milieux ruraux, ou l'État lui-même pouvait, d'une manière ou d'une autre, mettre en place quelques structures pilotes de façon à démontrer aux privés que même dans les milieux ruraux, il y a aussi moyen de faire des affaires et de gagner.
Mm-hmm.
Parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un qui veut faire son activité de pour dire non, ne fais pas ça ici, va le faire à qui j'envoie. Et non, lui, il dit, moi je veux évoluer ici. Il est libre de le faire.
Mm-hmm.
Mais l'État peut aussi prendre des initiatives, encourager, peut-être accorder des facilités à des privés qui veulent aller là-bas, peut-être lui-même aussi mettre en place quelque chose pour inciter les privés à dire, là aussi, dans les rues, il y a moyen de faire quelque chose.
Mmh.
Ça, c'est pourquoi l'État doit toujours être comme régulateur de l'activité économique et parfois aussi incitateur de tout ce que les privés font.
Et vous resterez en ligne hein, parce que notre émission aujourd'hui, nous avons 1h15 d'émission, donc nous allons aller jusqu'à 11h15. Entre-temps, nous allons écouter Séraphin aussi, M. André Nkoussou.
Mmh.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Séraphin. Zéphirin.
C'est
plutôt
Zéphirin. Madame Jack, je fais des confidences, mon nom.
Mais moi, j'ai Zéphirin.
Il s'appelle Néry, c'est mon vrai, mais il s'appelle Marie Chantal.
Merci beaucoup pour cette remarque et de le prendre de bon cœur, hein, Zéphirin.
Oui.
De Kisangani, pensez-vous qu'il y a un impact dans votre milieu du fait qu'il y ait des structures de microcrédit qui aient ouvert leurs portes?
Ok, madame, moi, juste. Je ne suis pas vraiment très économiste et je n'ai pas vraiment de notion à l'économie, mais je suis relationniste. Bon, je voulais juste dire que notre pays, c'est une personne morale. Et cette personne morale a le science sur les personnes physiques. Au lieu, notre pays était incapable d'abord de payer des dettes extérieures. Ça veut dire, nous aussi, les gens, les appartenants de cette personne morale, on serait aussi capable. Si vous voulez un peu donner une petite conseil aux populations congolaises, c'est que si on emprunte cet argent, si on emprunte l'argent dans une banque quelconque, c'est bien de rembourser. C'est bien d'avoir un peu la notion de rembourser cet argent. C'est un peu ça, madame. Je suis bref.
Oui, c'est vrai que Zéphirin, il n'est pas aussi nécessaire d'avoir vraiment, de connaître les grands principes économiques. Par exemple, une maman qui est au quartier en train de vendre son pain, une maman qui achète des tomates pour revendre, elle achète en gros, elle revend en détail. Est-ce que vous pensez que si ces mamans accèdent à des microcrédits, est-ce que cela pourra aider, est-ce que cela aura un impact dans son vécu quotidien?
Oui, ça a un impact parce que moi, je suis sûr que non, si une banque prête de l'argent chez ces mamans-là, ça serait un peu bien parce que ça va aider à sa famille, si il s'efforce bien, il travaille avec cet argent bien, il gagne quelque chose, ça peut aussi contribuer à la maîtrise de la pauvreté. Il n'y aura plus encore la pauvreté dans notre pays. Ça, vraiment, ça sera bien.
Et vous revenez alors sur la gestion, hein, savoir gérer le prêt.
Eh oui, c'est ça, madame.
Merci beaucoup, Zéphirin de Kisangani. Cette fois-là, j'ai dit Zéphirin. C'est bon.
Merci, je suis content.
Merci, Zéphirin de Kisangani. Avant de prendre M. André Koussou, nous avons Trésor qui nous écrit à partir de Kinshasa. À mon avis, ces microcrédits ne font que augmenter la souffrance du peuple congolais. Ces crédits sont octroyés à un taux d'intérêt élevé. Comment voulez-vous qu'une personne, lorsque nous plaçons l'argent dans des banques et nous, on nous propose des taux d'intérêt faibles, généralement moins de 3%, mais lorsqu'il s'agit d'emprunt, le taux varie entre 20 et 50%. Ce n'est pas normal. Donc, il regrette lorsqu'on dépose l'argent dans une banque. Il faut au moins... il y a des taux d'intérêt que de 3% lorsqu'on dépose, mais curieusement, lorsqu'on emprunte, les taux varient entre 20 et 50%. Ce n'est pas normal, dit Trésor à Kinshasa. Le gouvernement doit réglementer ce secteur et créer ses propres microcrédits pour soulager les bénéficiaires. Bonjour, Monsieur André Koussou.
Bonjour, Madame Marie-Chantal.
Comme je l'ai dit, vous faites partie du regroupement du système de financement décentralisé du Congo, le RECIDEC. Oui, et dites-nous un peu, vous octroyez quand même des crédits, mais souvent, quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à un crédit, d'une manière générale?
Madame, excusez-nous, on est rectifié un peu le tout, parce que nous sommes en regroupement des institutions de microfinance. Nous avons 34 institutions de microfinance que nous accompagnons sur le terrain. Donc, nous ne donnons pas de crédit, nous donnons des RECIDEC.
Donc, vous gérez que ces structures, donc c'est une association des structures de microfinance, mais souvent vous avez quand même un regard pour voir comment fonctionnent ces structures, à votre avis, parce que là vous essayez de pouvoir encadrer ces structures à bien évoluer sur le terrain. Est-ce que des fois vous ne leur faites pas des propositions pour améliorer les conditions d'octroi des microcrédits?
Oui, madame, je comprends que l'éditeur qui a parlé avant moi a parlé d'une certaine pratique de vigilier qu'on appelle banque lambert. Dans les banques, je pense qu'on ne va pas voir le taux de 50 ou 60% au niveau des prêts accordés aux particuliers, les petits prêts là de 300, de 100 et de 200. Je voudrais un peu préciser, madame, ici nous parlons de la microfinance, c'est-à-dire de l'offre de services financiers aux personnes exclues du système bancaire classique. Donc, le microcrédit dont parlait mon prédécesseur n'est pas la microfinance. Dans la microfinance, il y a le microcrédit et l'épargne, la microépargne.
Mm-hmm.
Et donc, nous, en tant que RECIDEC, nous accompagnons les institutions qui offrent des services financiers aux personnes exclues du système bancaire classique. Ces institutions-là accordent du microcrédit à la population et collectent aussi la petite part de cette population-là. Alors, pour revenir à la question de notre ami qui parlait du taux d'intérêt, nous, à notre connaissance, nous n'avons pas de structure qui octroie de crédit à des taux aussi importants que ça. Nous limitons au taux de 3%, 5%, tout au plus par mois. Et les populations qui obtiennent ce crédit, c'est un revenu parce que elles arrivent à rembourser sans problème.
Et à votre avis, est-ce que vous pensez que l'octroi de ces crédits peut réellement lutter contre la pauvreté?
Oui, madame, l'octroi de ces crédits lutte efficacement contre la pauvreté parce que là, nous avons senti avec le contact fréquent que nous avons sur le terrain. Nous sentons que certaines populations arrivent à payer les frais scolaires de leurs enfants grâce à ces microcrédits. Il y a des gens qui arrivent quand même à fournir de l'alimentation pour leur foyer grâce aux microcrédits. Il y a des femmes même qui deviennent de plus en plus économiquement fortes grâce aux microcrédits. Et vous avez les gens qui ont des boutiques, les gens qui ont des pharmacies qui augmentent leur volume d'affaires grâce aux microcrédits. Les microcrédits facilitent le taux d'emploi de la population. Donc, je pense que ça a un impact vraiment visible sur la population.
Et vous êtes sur terrain, vous avez constaté cela. Merci beaucoup, M. André Nkoussou, d'avoir accepté d'intervenir au cours de cette émission. Mais nous prenons directement M. Odiane Doul. Je pense que cette fois-là, j'ai bien prononcé son nom. Bonjour, Monsieur Odiane.
Bonjour madame,
bonjour
à tous les auditeurs de la radio Kabyle.
Vous êtes à Kisangani, vous avez écrit un mail dans lequel vous dites que vraiment les microcrédits qui devraient aider les pauvres la population à se développer sont par contre des instruments de pillage, et cela au vu des autorités du pays. Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
Oui, merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que la première responsabilité revient d'abord à l'État. L'État qui est appelé à contrôler toutes ces institutions des microcrédits, voir si ces institutions sont à même de fonctionner. Mm-hmm. Parce que c'est la Banque centrale qui octroie l'autorisation de fonctionnement. Elle devrait, a priori, vérifier la capacité financière de toutes ces institutions.
Mm-hmm.
Donc, si je vous donne l'exemple de la province orientale, il y a beaucoup d'institutions financières comme Galalétou, Baraka, etc., qui ont tellement escroqué la population.
Et d'ailleurs, la réalisation me fait signe que vous êtes député provincial en province orientale et que vous avez été victime d'une escroquerie dans une structure de microcrédit.
Tout à fait, madame. Et je vous cite le cas de Galalétou, là où j'ai placé le fonds, mais cette institution jusqu'à ce jour n'a jamais donné satisfaction à mes revendications, et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Il y a également CCR qui a escroqué pas mal de Congolais. On a attendu des démarches jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale, parce que CCR, Galalé, tout ça appartient à certains députés nationaux. Et jusqu'à ce jour, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les cours de tribunaux, ils n'ont jamais donné satisfaction à toutes ces revendications de la population de la province orientale.
Mmh.
Et l'État devrait apprécier et subir la rigueur de la loi. Il fallait que la population traduise l'État en justice, parce que l'État, c'est son rôle de sécuriser la population et c'est bien. Mais l'État ne fait pas son travail, il ne s'occupe pas de tout ça, de tous les escrocs pullulent partout au pays, ils escroquent, ils essaient d'escroquer la population, mais l'État n'arrive pas à agir.
Et vous pensez, au regard de ce que vous avez constaté, cela est en train de creuser en fait le fossé entre les banques, fossé de confiance bien sûr, entre les structures de microcrédit et la population.
Oui. Maintenant, il est difficile au moment où je vous parle pour que la population elle-même puisse ouvrir même des comptes dans des banques qui sont au pays. Je suis allé au début de l'année à Riwara, là où la population dit carrément qu'elle ne peut plus placer son argent dans une banque quelconque. Elle préfère garder son argent dans des banques de pays voisins, entre autres en Ouganda, parce que là, il y a sécurité. Mmh. Mais c'est vraiment inconcevable.
Vous proposez en fait qu'on puisse assainir le milieu, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que député provincial, vous avez quand même une part, vous pouvez faire une pression sur le gouvernement?
Effectivement, nous avons fait une pression ici, sur place à Kisangani, avec la population. On a fait une pression, on a envoyé une délégation à Kinshasa, je vous dis, auprès de l'Assemblée nationale pour ce dossier. Il fallait qu'on traduise, le promoteur même de la structure comme Galalet ici, devant le cours des tribunaux, où l'Assemblée nationale se prononce sur son immunité parlementaire, mais jusqu'à ce jour, la solution n'est toujours pas trouvée. Toute cette population, ça fait de pleurer jour et nuit ici sans trouver la solution, moindre solution auprès des autorités. Il y a eu même des marches ici à Kisangani.
De solutions. Et vous pensez que si on arrivait à avoir des structures crédibles, est-ce que cela aurait un impact dans le vécu quotidien des populations qui pourront bénéficier des microcrédits, aussi épargner leur fonds?
Je crois bien, il faut qu'il y ait des structures fiables. S'il y a des structures fiables, d'abord la population va commencer à épargner. Et l'épargne va aider les pays également parce que la circulation monétaire donc entre les mains de la population va diminuer et tout le monde sera tenté par donc garder son argent auprès de toutes ces structures. Et deuxièmement, il faudra éduquer la population et sur la gestion même de ces fonds qui proviennent des crédits octroyés par toutes ces structures. Donc, parce qu'il y a des gens qui pensent que non, lorsqu'on a besoin d'acheter une maison, il faut contracter une dette auprès d'une structure financière, c'est bien, mais on contracte une dette pour faire tourner cet argent afin de rembourser le montant à l'échéance. Donc, si on n'est pas à mesure de rembourser les prêts à l'échéance, on utilise cet argent d'une façon abusive, vous croyez que l'argent n'appartient à personne, c'est pour vous-même, à ce moment, ça ne peut pas marcher, ça ne peut même pas aider la population à se développer, à quitter le temps de la pauvreté dans laquelle il vit ou elle vit.
Merci beaucoup, monsieur le député provincial Ogane Douné, je pense que c'est comme ça que ça se dit, pour votre intervention au cours de cette émission. Et je rappelle que nous avons comme invité monsieur Lems Moukania, qui est au bout du fil, monsieur Lems Samoyen, qui est au bout du fil, et nous allons le garder. Je rappelle que Parole aux auditeurs d'aujourd'hui est centrée sur les microcrédits. Vous savez que les microcrédits, souvent, sont employés aux personnes qui, des artisans qui n'ont pas assez de moyens. Et la question, c'est de savoir quel est l'impact de ces prêts dans votre vécu quotidien. Je vous invite à suivre ce bulletin d'information. Nous poursuivons parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons microcrédit. Il faudrait dire que l'activité de microcrédit consiste généralement en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Le microcrédit se développe surtout dans les pays en développement. De plus en plus, ces structures de microfinance ouvrent leurs portes en RDC, que ce soit du type formel comme les banques commerciales, les coopératives d'épargne et de crédit, ou encore du type non formel comme les toutines. Ces prêts bancaires sont perçus par certains comme une bouée de sauvetage, là où d'autres parlent d'exploitation suite à des taux d'intérêt souvent très élevés. Quel est l'impact de ces prêts dans votre vécu quotidien? Et nous avons notre invité depuis le début de cette émission, M. Lems Kamoania, qui est analyste économique. M. Kamoania, j'espère que vous êtes toujours au bout du fil. M. Kamoania? Et nous avons perdu encore une fois notre invité cette émission. L'émission d'aujourd'hui n'est pas vraiment facile à réaliser parce que là, nous avons beaucoup de problèmes de liaison, de ligne téléphonique, ça marche pas, ça se coupe à tout bout de son. Et nous avons quand même Hubert de Bukavu qui nous a écrit à travers l'adresse internet pa@radiocapit.net. Il dit les agences de microcrédit ont un impact très positif à Bukavu en particulier et en RDC en général, surtout que les banques qui renaissent ne servent plus les gens quand ils ont un besoin urgent d'argent et surtout de leur argent et que pour une quelconque opération à la Banque Congolaise par exemple, il faut passer 4 ou 5 jours après le dépôt du chèque à ses guichets pour toucher son argent alors que les conditions de vie ne permettent pas cette manière de vivre. Voilà ce qu'a constaté Hubert de Bukavu. Il pense que le microcrédit, ça permet aux gens de pouvoir mieux travailler, de tourner avec son argent plus facilement. C'est son point de vue. Et merci Hubert de Bukavu de nous écrire à travers pa@radiocapit.net. Le temps que la réalisation puisse faire un effort pour contacter notre invité, parce que là, il pourra conclure cette émission sur le microcrédit, surtout qu'il est analyste économique. Nous écoutons d'abord Maonda de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, c'est Maonda et non Maonda.
Maonda. Merci beaucoup, Maonda. J'ai aujourd'hui vraiment les noms, là.
Oui,
ça me fait trop de problèmes. Et dites-nous, quel est l'impact, Maonda?
une petite suggestion avant d'intervenir,
oui.
Si vous permettrez.
Mm-hmm.
Je souhaiterais que les invités de Paroles aux auditeurs soient au plateau, parce qu'à chaque fois que nous avons les invités au téléphone, nous connaissons des problèmes
de coupure de liaison. Même c'est la même chose avec vous, hein. Ne vous en faites pas, même avec vous, des fois vous êtes en train juste d'expliquer ce que vous pensez, il y a une coupure, et nous faisons toujours de notre mieux pour avoir un invité au studio. Mais le problème de réseau, c'est pas seulement pour l'invité, ça s'applique aussi pour vous. Et pourtant, cette émission est d'abord la vôtre, hein, vous les auditeurs. Mawanda, on vous écoute.
Moi, je trouve que les microcrédits fait développer le pays dans la mesure où ce qui est sucré pour l'un peut-être amer pour l'autre. Alors, moi, je vais seulement conseiller aux consommateurs des microcrédits.
Mm-hmm.
Vous savez, lorsqu'on fait ce qu'on fait, on peut bien se décider. Lorsqu'on ne fait pas ce qu'on fait, on ne se décide pas.
Mm-hmm.
C'est cela même la différence entre l'animal et l'homme. C'est-à-dire l'homme jouit du libre arbitre, la liberté de choix.
Mm-hmm.
Ces microfinances constituent un contrat d'adhésion. Donc, lorsqu'on sait que les taux d'intérêt sont élevés, on ne s'engage pas. Et lorsqu'on s'engage, c'est qu'on s'est rendu compte de toutes les conditions et les modes d'effectuer que les microfinances doivent effectuer.
Donc,
alors.
Mm-hmm. Donc, il faut vraiment bien lire le contrat avant de s'engager.
Oui, c'est un contrat d'adhésion. Lorsqu'on s'engage, on ne peut pas venir pleurnicher après que non, le taux d'intérêt est élevé. Mais il y a certaines personnes qui se développent, il y a certaines personnes qui gèrent bien les microfinances, qui ont vu leur commerce évoluer et qui se sont organisés par la suite. Donc, je trouve que le microfinance semble être une des solutions pour développer le pays, pour lutter contre la pauvreté.
Oui, merci beaucoup, Mawanda, pour votre intervention. Donc, c'est une question de responsabilité et surtout d'engagement, bien savoir ce que l'on veut avant de prendre une décision. Il y a Robert Sindekcha à partir de Kananga. Les microcrédits concernent les petits, le gagne petit, mais ces microcrédits ne fonctionnent surtout que dans des grandes villes, pas dans les villages. Comment les ruraux peuvent accéder à ces crédits? C'est la préoccupation de Robert. Mais aussi Alain de Lodja, il dit je suis ici à Lodja, par exemple, que dois-je faire pour accéder à un crédit? Là, Alain de Lodja, vous savez qu'il faudrait que vous puissiez vous présenter dans une institution qui octroie les crédits, à moins que ça se fasse par Internet. Là, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à Lodja ou comment ça se passe, mais au préalable, il faut contacter une structure qui octroie les microcrédits. Mais là aussi, Mireille de Kinshasa qui nous écrit ceci. Ceux qui accordent les microcrédits utilisent un langage trop compliqué pour nous, les ruraux. Je crois que le problème se pose à ce niveau-là. Donc, Mireille estime qu'il faudrait que le langage soit courant pour permettre, par exemple, à la maman qui vend les arachides, au papa menuisier ou électricien, à pouvoir comprendre d'abord le langage, surtout du contrat qui va les lier avec les structures qui vont octroyer le crédit. Et nous arrivons vers la fin de notre émission. Cette fois-là, je pense que l'invité est au bout du fil, on a pu le recontacter. Monsieur Lems Kamonia.
Oui, je suis bien là.
Aujourd'hui, vraiment, ça n'a pas été facile pour nous.
Pas
l'émission,
tout.
C'était vraiment compliqué parce que sans auditeurs, sans ligne téléphonique, il n'y a pas de parole aux auditeurs. C'est vrai, mais qu'il y a aussi ce second moyen à travers pa@radiocapi.net. Nous avons reçu d'ailleurs plusieurs messages de nos auditeurs. Et en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir au regard de toutes ces préoccupations, microcrédit, c'est fiable ou pas du tout, monsieur Lems Kamonia?
Oui, d'abord, avant de répondre à votre préoccupation, je prends compte de l'observation de micro-ondes et je prends bien cette observation pour que prochainement, si je suis invité, je me ferai le devoir d'être fastidieux sur place.
Oui, merci beaucoup à monsieur Mawanda qui a plaidé pour nous.
Voilà.
Oui.
Ok, alors, je pense que ce qu'il faut comprendre, les institutions de microcrédit ne peuvent être considérées que comme un maillon dans l'ensemble d'une chaîne qui peut conduire au développement. On ne peut pas développer un pays seulement avec ceux qui font les affaires à une échelle assez large, parce que le développement doit être le fruit de tout le monde. Actuellement, même les gens qui parlent de la croissance, on dit, on ne doit pas seulement être quantitatif, il faut qu'il y ait une redistribution. On consente que tout le monde se retrouve et que tout le monde améliore sa condition sociale, sa condition économique dans les pays. Et c'est cette somme-là qui fait du développement. Donc, les institutions de microcrédit ne peuvent s'insérer que dans ce cadre-là comme une chaîne, et donc comme un maillon d'une chaîne qui, dans l'ensemble, peut conduire au développement de ces pays. C'est important pour qu'on ait ces institutions parce qu'elles, elles auront convocation de s'adresser à ceux-là qui sont des gagnants petits, ceux-là qui font des activités commerciales à une échelle qui est assez restreinte, ceux-là qui n'ont pas un niveau élevé de capital pour traiter avec les grandes banques commerciales. Et cette frange représente, elle est tellement importante au niveau de la composition de ménages et la composition commerciale dans les activités. Si vous vous rappelez bien tout ce qu'on appelle de l'économie informelle, vous trouvez autant de ménages, autant de personnes qui œuvrent dans ces activités et qui font marcher les pays, qui font vivre de nombreuses familles. Et on ne peut pas oublier cette catégorie de la population, il faut qu'on puisse l'assister. Mais en revanche, les populations qui doivent être assistées, qui doivent aller dans un seul microcrédit, ils doivent sortir l'idée de fait que c'est une charité. Ou bien ces institutions viennent pour les aider dans leur situation sociale. Non, c'est d'abord des transactions financières, des transactions économiques, un rendez-vous du donné et du recevoir. Vous prenez un microcrédit, c'est pour développer votre affaire, et vous devez être prêt à pouvoir rembourser. Et cela doit être fondé aussi bien dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Si dans les milieux urbains, les institutions sont déjà installées et qu'elles ne se retrouvent pas dans les milieux ruraux, là on fait appel à l'État, on fait appel à la Banque centrale, à toutes les structures, pour voir dans quelle mesure, dans les initiatives, créer des facilités, inciter les privés à pouvoir aussi se déployer là, parce que là aussi vous y retrouvez un nombre assez élevé de populations, des agriculteurs, je ne sais pas qui font des activités et qui ont aussi besoin d'avoir ce microcrédit pour booster ceux qui sont en train de faire comme travail. Donc, si on le fait ainsi, on aura un développement qui ne sera pas tellement limité au niveau des centres urbains, parce qu'il faudrait qu'on diminue un peu les gouffres qui existent entre le développement dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux. Je crois que les deux ont besoin de ce développement pour qu'on aboutisse à un développement équilibré de l'ensemble du pays. C'est très important.
Merci beaucoup, M. Lemus Kamoigna, d'avoir accepté de participer à cette émission. Aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment facile. Nous avons vraiment connu des problèmes de téléphone, de liaison. Et vraiment, à tous les auditeurs qui se sont inscrits pour pouvoir participer à cette émission, mais qui n'ont pas pu, c'est pas parce que nous n'avons pas voulu, mais c'était assez compliqué aujourd'hui. Mais tant bien que mal, nous avons pu réaliser cette émission aujourd'hui et il y aura une rediffusion de celle-ci à partir de 20h03 heure de Kinshasa. Et surtout, n'oubliez pas, demain, nous aurons un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Eh bien, demain, Parole aux auditeurs, nous allons traiter cette fois-là de Sapiro et la Mégie qui sera à la présentation. Il va braquer ses projecteurs sur les ambassades de la RDC qui s'est ouvert le lundi dernier la 11e conférence diplomatique. Tous les diplomates congolais sont autour du chef de l'État pour faire un diagnostic sans complaisance de la diplomatie congolaise. Il s'agit d'évaluer les forces et faiblesses des 50 dernières années dans ce domaine. Une occasion pour les auditeurs de donner leur avis à ce sujet. La question pour lancer notre débat, quel état de lieu faites-vous des ambassades de la RDC à travers le monde? Vous pouvez donner votre avis dès à présent en écrivant à l'adresse internet ca@radiookapi.net. Je remercie vraiment de tout cœur Tichim Poutou, Thierry Lameyi, Mimi et Kindou Fonzoubi, Nicole Ndaka qui se sont battus bec et ongles pour la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Lumba était à la présentation. À demain.